Une école pour la vie. L'émission de Radio Grand Ciel qui vous parle de l'actualité de l'enseignement catholique d'Eure-et-Loir, animée et réalisée par
Corinne Vivier,
Lucie Amiot
et Jean Brouillou, votre serviteur. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année scolaire. Et pour cette première émission, nous allons recevoir M. Philippe Castille, directeur diocésain, Mme Bénédicte Laurin, adjointe, et Lucie Amiot, adjointe pour la pastorale. Bonjour. Alors Corinne.
Bonjour.
Bonjour.
Eh bien bonjour à tous. Monsieur Philippe Castille, c'est la rentrée et c'est le temps de faire un point sur les projets de l'enseignement catholique d'Eure-et-Loir.
Bonjour Corinne, merci encore une fois à Radio Grand Ciel de nous ouvrir les ondes pour pouvoir parler de l'enseignement catholique de notre diocèse. Alors la rentrée, la première chose, c'est que c'est une rentrée démasquée, enfin une rentrée sans masque, une rentrée avec un protocole sanitaire très allégé et avec beaucoup de plaisir de retrouver le sourire de nos élèves, le sourire de nos enseignants, de nos personnels et des familles qui ont cette confiance en nous et qui nous confient leurs enfants. Donc ça, c'est la première chose. Donc dans tous les sites, hein, dans toutes les écoles, que ce soit les petites écoles, comme on les appelle, même si elles sont grandes en rayonnement, mais petites par leur taille, dans les petits villages, et puis dans les écoles plus importantes, on a retrouvé cette joie du partage, cette joie d'être ensemble. Voilà pour cette rentrée.
Peut-être un petit rappel sur ce qu'est l'enseignement catholique en Eure-et-Loir.
Alors,
puisque vous avez parlé des plus petits, mais il y a aussi des très grands.
Alors, il y a aussi des très grands. Donc, l'enseignement catholique en Eure-et-Loir, c'est de la maternelle, voilà, de la toute petite section, donc les élèves de 2 ans et demi, jusqu'au post-bac, puisque nous offrons un certain nombre de formations en bac plus 5, en alternance, voilà, que ce soit des formations de l'éducation nationale ou des formations de l'enseignement agricole. Et en tout, nous regroupons 11 500 élèves et puis un peu plus de 200 apprentis. Voilà.
Et pour l'encadrement ?
À l'encadrement, ben, effectivement, pour encadrer tout ça, il faut beaucoup d'enseignants, beaucoup de professeurs, hein, donc plus de 600 enseignants, et puis également des personnels, voilà, des personnels qu'on appelle les personnels OGEC.
Puisque alors, peut-être expliquer que veut dire OGEC.
Alors, c'est les personnels des organismes de gestion. Chaque école, chaque établissement a un organisme de gestion. Parfois, un organisme de gestion regroupe plusieurs établissements. Et puis c'est eux qui emploient les personnels non enseignants. Les personnels non enseignants sont employés par l'académie, alors que les personnels non enseignants sont des personnels de droit privé de chacune de nos associations OGEC.
Les auditeurs ont entendu, comme tous les Français, ce besoin d'enseignants devant chaque élève, chaque classe à la rentrée. Alors je me tourne vers Madame Laurin pour savoir comment dans l'enseignement catholique d'Eure-et-Loir, vous avez géré cette situation à la rentrée.
Bonjour à tous, merci de me laisser la parole. Comment nous avons géré cette rentrée ? Bien, je dirais nous avons accueilli ce déficit d'enseignants, comme partout un petit peu sur le territoire français, avec dans l'idée de trouver comment servir les établissements, puisque c'est avant tout notre mission. Donc l'idée, c'était de recruter des personnes non formées et puis que nous allons accompagner, nous. C'est ce qu'on appelle les suppléants. Donc les suppléants, en quoi ça consiste ? Un suppléant est une personne qui a un niveau licence et qui accepte de prendre momentanément un poste d'enseignant en remplacement d'une personne titulaire, donc qui peut avoir un congé de formation, un congé maladie, un congé maternité. Donc cette personne, elle est reçue au sein de la direction diocésaine pour un entretien avec moi-même. Et puis, lors de cet échange, eh bien, on fait le tour un petit peu du parcours de la personne. afin d'étudier son profil et de voir si elle peut correspondre à un enseignement, enfin à viser l'enseignement catholique d'Eure-et-Loir. Et puis cette personne, elle n'est pas livrée à elle-même hein, quand elle est en poste. Elle est recrutée, mais elle est aussi accompagnée, par des visites conseils que je fais. Mais aussi, elle est formée, co-formée, j'aime bien dire co-formée, par l'équipe entière de l'établissement, qui a responsabilité aussi d'accompagner cette personne. Et puis aussi par le biais de l'institut de formation qui s'appelle l'ISFEC, qui est situé à Tours, qui propose aussi un accompagnement pour ces nouveaux entrants dans le métier.
Juste rapidement, une petite adresse mail si des gens veulent contacter pour ces suppléances la direction diocésaine.
Bien sûr, donc il faut très simplement envoyer un mail avec votre CV à secrétariat@ec28.fr ou appelez au 02 37 88 33 20.
Monsieur Castille, nous allons poursuivre sur les projets de l'année pour l'enseignement catholique d'Eure-et-Loir. Alors, qu'est-ce qui va marquer l'année ?
Alors, cette année va être une année exceptionnelle pour l'enseignement catholique puisque cette année va voir l'aboutissement du travail de réécriture de son texte de référence qu'on a appelé les engagements de l'enseignement catholique. Donc, jusqu'au mois de mai, nous allons continuer à travailler avec les communautés éducatives pour que tout le monde rédige les engagements de l'enseignement catholique du diocèse. Et le 12 mai, nous ferons une grande fête au Château des Vaux, à la Fondation d'Auteuil. Nous ferons une grande fête pour promulguer ces engagements de l'enseignement catholique. Des engagements que nous prenons pour, on va dire, de 2023 jusqu'à 2030. Voilà, l'horizon, il est là.
Est-ce qu'il y aura un lien avec la charte de l'enseignement catholique national?
Bien sûr.
C'est pas une charte indépendante.
Ça s'inscrit dans le même mouvement avec les particularités de notre territoire, puisque vous savez que l'enseignement catholique, comme toute l'Église, veut pouvoir s'adapter aux conditions locales. Hein. Et donc, dans le cadre du projet de l'enseignement catholique, du statut de l'enseignement catholique, nous nous inscrivons bien évidemment pour décliner nos engagements. Alors, les engagements pris par l'ensemble des membres de la communauté éducative, nous voulons des engagements à la fois ambitieux, mais en même temps atteignables, et puis concrets, des engagements que nous pouvons évaluer régulièrement tout au long des 7 années. Voilà, 2023-2030, que nous puissions régulièrement évaluer. Alors, les axes de ces engagements, on a un axe, bien sûr, sur l'école de la bientraitance, l'école du prendre soin, de l'accueil. Je crois que c'est un atout de notre école catholique, voilà. C'est pas parfait, on a encore beaucoup de progrès à faire, et on va continuer à faire des progrès dans ce domaine de la bientraitance et du prendre soin. Un autre axe important pour nous, l'école catholique doit être une école de la relation. Voilà, donc on décline en s'inspirant de l'encyclique Laudato Si, on décline évidemment cette relation comme la relation à soi, la relation aux autres, la relation à Dieu. Voilà. Et donc c'est toutes ces relations que nous voulons développer. Et puis avec aussi l'ambition de vivre la communauté éducative en communion. Et bien sûr, le troisième axe, avant que vous me coupiez, Jean.
Non, non.
Le troisième axe, c'est une école qui donne à voir l'Évangile. Voilà. Une école qui non seulement annonce, voilà, proclame l'Évangile, mais aussi, par le service et par la célébration, puisse donner à voir l'Évangile et donner accès au Christ au plus grand nombre, parce que dans nos écoles, on accueille tous les enfants, qu'ils soient chrétiens ou non.
Alors, non, moi, je voulais simplement vous demander, au niveau de méthodologie, comment ça va se passer, ça, jusqu'au mois de mai?
Alors, on a déjà, ça fait déjà un an qu'on est dessus, hein, qu'on fait des allers-retours entre du travail qui est fait au sein des communautés éducatives, souvent c'est au sein du conseil d'établissement, mais ça peut être au sein d'autres instances. On a un groupe de pilotage au niveau diocésain qui récupère le matériel fourni par les établissements, qui essaye d'en faire des synthèses, qui réinterroge, qui cherche aussi à illustrer, pour que ça ne soit pas que de la théorie, mais qu'on ait à la fois des engagements, mais en même temps des illustrations de ces engagements. Voilà. Donc on espère qu'on va continuer comme ça jusqu'au mois de mai.
Voilà. Et pour la préparation du 12 mai, vous avez...
C'est une autre équipe. Pour la préparation du temps fort, on a une autre équipe avec, bien évidemment, les personnels du Château des Vaux, tous les logisticiens, mais aussi les directeurs d'établissement du Château des Vaux, de la Fondation d'Auteuil, qui sont très heureux d'accueillir le projet diocésain et qui sont très intégrés dans ce travail.
Lucie, est-ce que cette année, c'est une année aussi exceptionnelle ? Alors là, au niveau mondial, est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement que vous êtes chargée de relayer au niveau de notre diocèse ?
Ah oui, merci de me donner la parole. L'événement est exceptionnel et concerne toute la jeunesse du monde, puisqu'elle concerne les jeunes de 18 à 35 ans. Le pape François réunit tous les jeunes à Lisbonne l'été prochain. Et avec le diocèse, nous aimerions accompagner une grande quantité de jeunes à partir du 25 juillet jusqu'au 7 août. Et nous avons le projet donc d'inviter largement et surtout des personnes qui sont dans l'enseignement catholique, puisqu'ils ont les créneaux disponibles pour ces vacances.
Alors concrètement ?
Concrètement, nous appuyons sur le thème. Sur le thème que le pape a proposé, qui est Marie, qui visite sa cousine. Ça part de la parole d'Évangile, qui dit « Marie se leva et partit en hâte ». Eh bien, on a conscience que la jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse exigeante, qui a soif d'absolu et qui est généreuse. Et donc, nous sollicitons tous ces talents pour mettre en route tous les jeunes de notre diocèse dans les établissements scolaires, que ce soit des élèves de terminale jusqu'à des BTS, en passant par des professeurs. Et donc, nous invitons largement.
Tout à l'heure, M. Cassis nous a rappelé les trois axes qui allaient être développés dans cette nouvelle charte de l'enseignement catholique d'Eure-et-Loir. Comment va se décliner pour les plus jeunes, c'est-à-dire du primaire et du collège, parce que là, vous avez parlé des grands, une école qui donne à voir l'Évangile et qui donne accès au Christ.
Alors, on va s'inspirer des figures des saints patrons des JMJ, parce que le pape a choisi, avec son petit comité, 13 saints patrons. Et parmi ceux-là, il y a quelques grands saints jeunes qui sont italiens, français. Donc, je peux vous parler de Marcel Callot, de Chiara Luce Pierre Giorgio Frassati. Et ils ont des vies modèles. Et pour nos jeunes, c'est un très bel exemple à suivre pour démarrer une vie dans la foi et pour peut-être découvrir le Christ.
Donc ça, ce serait une proposition à décliner pour les plus jeunes ?
Exactement.
D'accord.
C'est une manière de les associer à ce que vont vivre les plus grands.
Est-ce qu'il y a d'autres projets au niveau pastoral pour les collèges ?
Pour le collège, pour l'instant, rien n'est en cours, mais comme les années passées, des propositions de parcours seront proposées pour chaque grand moment de la vie liturgique, notamment au moment de l'Avent et au moment du Carême.
On peut peut-être revenir d'ailleurs sur les propositions qui sont proposées dans chaque collège. Généralement, il y a deux parcours, un plus catéchèse, l'autre plus...
Ah oui, vous avez tout à fait raison. Dans les établissements catholiques, nous veillons à ce que chaque élève ait accès à l'Évangile, et notamment à travers la culture chrétienne. Donc, dans chaque établissement, des parcours de culture chrétienne sont donnés pour que chaque enfant puisse approcher l'Évangile. Et puis, ceux qui ont de la chance, parfois, peuvent aussi bénéficier de cours de catéchèse, quand il y a des personnes qui sont disponibles pour cela, des parents bénévoles, des enseignants ou des personnels de vie scolaire.
Et même aller plus loin, puisque certains se font baptiser.
Exactement. Beaucoup d'élèves demandent le baptême dans nos établissements scolaires, puisque c'est le lieu où ils rencontrent une vie de communauté et qu'ils sont touchés par cette présence du Christ au milieu d'eux et ont soif de cette vie nouvelle qui est la vie dans le baptême, la vie éternelle.
Dans les nouveautés aussi, hein, cette année, il y a la création d'une nouvelle association, Monsieur Castille, de la Fondation Saint-Mathieu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot avant que nous consacrions une émission complète sur ce sujet ?
Alors là, nous changeons complètement de sujet, parce que, effectivement, alors c'est encore la pierre. Hein, le Christ nous dit « devenez une pierre d'église ». Bon, d'accord, mais là on est dans la pierre, dans ce ça de plus concret, puisque la Fondation Saint-Mathieu, c'est une œuvre qui a pour but de capter la générosité des amis de l'enseignement catholique pour pouvoir investir dans les établissements, investir autour de projets pédagogiques, mais surtout investir autour de projets immobiliers. Nos établissements sont malgré l'investissement des bénévoles, malgré les associations propriétaires, qu'elles soient congréganistes ou diocésaines, il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau du patrimoine scolaire de notre diocèse. Et donc la Fondation Saint-Mathieu, qui a été créée, qui est une fondation abritée de la Fondation nationale, donc la Fondation Saint-Mathieu Eure-et-Loire, sera lancée un peu solennellement à l'occasion de la messe de rentrée de l'enseignement catholique. Et puis, après vous en entendrez régulièrement parler, on aura l'occasion de faire une émission spéciale autour de cette fondation pour vous expliquer comment vous pouvez, par votre générosité, soutenir le projet de l'enseignement catholique.
Eh bien, merci. Alors, peut-être quelqu'un d'entre vous veut dire un dernier mot avant de passer à un autre sujet, justement, sur la nouvelle école guérie.
C'est le lien, tout ça.
Voilà.
Comme dit notre pape, tout est lié. Donc, nous avons effectivement une nouvelle école guérie qui a été créée, qui est tournée vers l'avenir, voilà, qui est riche des racines de l'ancienne école guérie. Voilà, je crois qu'on a pu construire sur le roc avec cette école. Il y a un très beau vitrail qui a été fait et qui est à la vue de tous et qui témoigne du caractère catholique de notre établissement. Et voilà, c'est bientôt au mois de novembre, ça sera l'inauguration. Et merci pour d'en avoir régulièrement parlé dans votre radio.
Eh bien, nous y allons. Merci à tous.
L'année, chers auditeurs, en vous proposant une émission sur le déménagement de l'école guérie. Eh bien voilà, nous y sommes, le déménagement a eu lieu et aujourd'hui nous sommes dans cette magnifique cour avec Madame Blanchet, la directrice, qui va nous donner ses premières impressions sur ce déménagement. Francine, alors quelques mots sur ce que vous vivez aujourd'hui et sur ce grand changement.
Alors, moi, ce que je vis aujourd'hui, c'est un grand bonheur. Je suis vraiment ravie d'accueillir mes petits élèves, mes grands, dans ces nouveaux locaux. Les classes correspondent tout à fait à ce qu'on attendait, grandes, spacieuses, claires. Le plus beau témoignage, ce sont les sourires des enfants, quand on les voit arriver au self, quand on les voit sur la cour de récré. Avec leurs enseignantes, la salle de motricité qui nous permet de faire du sport un peu tous les jours. Vraiment, je suis une directrice heureuse.
Tout s'est bien déroulé dans les temps, pas de mauvaises surprises, tout s'est bien passé pour ce déménagement.
Vous dire qu'il ne nous a pas manqué quelques jours serait mentir, mais nous étions prêts pour le matin de la rentrée. Il y a encore bien sûr des réglages, des petites choses qui dysfonctionnent, des petites choses qui ne sont pas encore installées, mais dans l'ensemble, tout était prêt. Madame Didou a bien respecté le timing et l'école a déménagé pendant l'été et était fonctionnelle pour le jour de la rentrée.
Et donc les parents, les réactions des parents ?
Dans l'ensemble, tout va bien. Il faut maintenant que là aussi, chacun trouve ses marques à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Les abords sont différents de la place Châtelet et donc ça demande ça aussi quelques réglages. Mais dans l'ensemble, les choses se passent bien.
Eh bien, nous allons aller à la rencontre des élèves pour avoir quelques réactions sur cette nouvelle école. Alors, nous sommes en classe de CP et nous sommes avec des élèves. Donc, nous allons demander à Joseph ce qu'il aime dans cette nouvelle école.
J'aime les parcours de billes, les ballons de basket, la motricité, le football, les terrains de basket et les terrains de ping-pong.
Marie voudrait nous dire aussi ce qu'elle aime dans cette nouvelle école.
La prière qui est à côté de la classe.
Le rugby, le basket et le self.
Lina a envie aussi de prendre la parole. Vas-y Lina.
J'aime bien le self.
Anaïs ?
Moi j'aime bien les pancartes accrochées au placard.
Moi j'aime bien... Parce que en fait, l'autre classe de CP est juste à côté. Moi, j'aime bien l'atelier de Madame Potier.
Alors, nous sommes rentrés dans la classe de CM2, la classe de Madame Lajoie, et nous sommes avec Manon, Paul, Olympe et Antoine. Alors, qu'est-ce que cette rentrée a changé pour vous, dans cette nouvelle école ?
La cantine, parce que maintenant c'est un self et avant c'était les dames elles venaient nous servir et là on sert tout seul.
Et en quoi c'est mieux ?
Parce que comme ça si on veut pas d'entrée, on prend pas d'entrée.
Alors qu'est-ce qui a changé encore ? Qu'est-ce que vous trouvez de très pratique et de très intéressant ?
Dans la cour il y a des paniers de basket, enfin il y en a plusieurs, du coup c'est mieux, il y a un plus petit espace pour les foot, mais c'est pas grave, c'est quand même bien. Il y a un préau au cas où, un plus grand pour accueillir plus d'élèves. C'est grand, il y a des bancs, il y a un petit coin d'herbe où on peut s'asseoir et se reposer. Et c'est plutôt bien déjà.
Moi j'ai aimé la classe parce qu'il y a des grandes armoires, plein de fenêtres et il y a un lavabo aussi. Et du coup, on peut remplir notre gourde sans traverser le couloir pour aller la remplir.
Moi, j'ai aimé du coup des armoires qu'on peut ranger nos cartables parce que des fois, on pouvait se bousculer l'année dernière. Et que là, il y a des rideaux automatiques.
Tu veux dire que lorsque vous arrivez en classe, vos cartables sont rangés dans des armoires. Il n'y a rien à vos pieds, c'est ça ? Et puis, vous aviez dit tout à l'heure que vous trouviez que cette école, elle avait aussi quelque chose de très particulier par rapport... aux fenêtres, tu peux nous décrire là pour les auditeurs ce que tu vois quand tu es dans ta classe. Qu'est-ce que tu vois ?
En fait, on voit des arbres, on sent à côté d'un forêt.
Exactement, on a l'impression, vous êtes au deuxième étage de cette école et on a l'impression que vous avez une classe perchée dans les arbres. Merci, et puis alors, belle année scolaire hein, dans cette nouvelle école. Madame Lajoie, vous êtes donc enseignante ici dans cette nouvelle école, enfin en fait, nouveau lieu. Comment vous avez accueilli cette nouvelle distribution, en tout cas cette nouvelle conception d'école ?
Alors écoutez, moi je suis ravie d'arriver dans ces locaux neufs. C'est très lumineux au niveau de la classe. Les élèves ont de l'espace. On a effectivement une vue sur les arbres aussi quand on est en classe. C'est assez reposant. Les espaces pour circuler sont très pratiques. On a des grands couloirs. Ça se bouscule très peu, finalement. Les élèves trouvent vite leur place. Et l'espace de récréation, avec tous ces jeux différents, de billes, d'espace, aussi on peut se poser avec nos élèves dans des petits amphithéâtres, c'est assez exceptionnel. On a vraiment beaucoup de chance. Merci.
Merci et belle année scolaire. Madame Drouard, bonjour, vous êtes secrétaire ici à l'école Guéry, alors vous avez aussi vécu ce déménagement. Qu'est-ce que ça change pour vous ?
Bah moi, ça change beaucoup de choses au niveau de la qualité du travail. Avant, j'avais un bureau assez sombre et puis vraiment mis à l'écart, que là, je vois tout le monde, j'ai plus de contact avec les autres et puis très lumineux.
Alors, vous êtes au secrétariat, mais vous êtes aussi à l'accueil, c'est-à-dire que la première personne que l'on rencontre quand on arrive à l'école Guéry, c'est donc vous.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Comme ça, je vois tous les parents passer le matin et puis les enseignantes, enfin. Voilà, c'est moi qui accueille.
Est-ce que vous voyez des sourires à l'arrivée ?
Oui, beaucoup. Oui, les gens sont contents. Ouais, ils trouvent ça lumineux, ils aiment bien.
Voilà, un grand changement, donc.
Voilà.
Merci. Nous allons prendre la direction du restaurant scolaire, parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu de grands changements. Alors, je suis avec madame...
Danielle, qui est cantinière maintenant à l'école Guéry. Alors c'est vrai qu'avec le nouveau concept du self-service pour la cantine, c'est vraiment très très bien pour les enfants, parce que comme ça ils prennent un peu plus d'indépendance, ils se débrouillent tout seuls, le service se passe beaucoup plus facilement et est beaucoup plus fluide.
Au niveau de l'ambiance dans la salle de repas, comment ça se passe ?
Alors c'est vrai que bon, en début de service à 11h30 pour les petits, c'est un petit peu bruyant, ce qui est normal. Et après, ça fait un rythme normal, les enfants parlent, beaucoup de bruit, mais bon, ça va. Dans l'ensemble, ça va. On n'a pas à se plaindre.
Et vos conditions de travail personnelles, c'est mieux ?
C'est beaucoup mieux, il y a beaucoup moins de pas. C'est déjà très important parce qu'on est déjà sur un endroit qui est de plein pied. On n'a plus besoin de monter et descendre. Et c'est vraiment très très bien adapté pour ce style de self.
Eh bien, merci beaucoup.
Alors, nous continuons notre visite et nous sommes dans une classe de maternelle avec madame Sandra qui est aide maternelle. Alors, madame Sandra, qu'est-ce qui a changé pour vous depuis ce déménagement ?
Alors, le confort, beaucoup de toilettes pour nos petits. Ça, c'est un vrai confort pour nous. La surveillance.
Alors là, votre classe de maternelle, elle donne accès directement à la cour. Il n'y a pas d'escalier à descendre.
Il n'y a pas du tout d'escalier. Tout est vraiment au rez-de-chaussée. On peut monter après au self par un autre escalier. On n'est pas embêté avec les grandes sections et les primaires. Mm-hmm. On n'a vraiment que pour notre réserve pour nous au premier étage.
Mm-hmm. Donc un changement de vie pour ces petits aussi très important.
Un grand changement de vie pour eux et pour nous aussi.
Merci.
Alors moi, je vous présente maintenant Isabelle Potier, qui est une ancienne maman d'élève qui est restée fidèle à l'école rue du Cheval Blanc et ici un peu Clermont-d'Es-France. Elle vient animer des ateliers d'art visuel sur temps scolaire ou sur la pause méridienne. Et elle va vous dire un petit peu ce qui a changé dans sa vie depuis qu'elle est installée au premier étage du bâtiment.
Alors déjà, avant j'avais une salle partagée. C'est-à-dire que dans la même salle, il y avait les ateliers que je fais, mais il y avait aussi le caté et il y avait d'autres activités qui s'y passaient. Donc la salle n'était pas disponible tout le temps, donc c'était quelquefois un petit peu un casse-tête au niveau du planning pour arriver à faire des activités. Là, évidemment, la salle, elle est toujours disponible, donc c'est un vrai bonheur. On a plein de rangements, on a une luminosité qui est incroyable par rapport à ce qu'il y avait avant, on a beaucoup plus de place. Pour la pause méridienne, on est juste en face de la cantine, donc les enfants viennent directement, c'est très pratique au niveau de l'organisation, et puis bah, on est vraiment bien, quoi.
Merci. C'est la fin de l'émission, il est temps de faire un tout petit agenda. Lucie, je crois que tu as quelque chose à nous dire.
Oui, tout à fait. Pour nos jeunes, cette année, encore une belle proposition. 5 jours à Thésée, donc deuxième semaine des vacances de la Toussaint, avec un départ le 31 octobre pour un retour le 4 novembre. Donc n'hésitez pas, c'est en ligne, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme Vegno.
Et Corinne, un rappel de...
Eh bien oui, pour des personnes qui auraient envie de prendre des renseignements ou de rencontrer Madame Lorrain pour des suppléances, vous pouvez appeler la direction diocésaine au 02 37 88 33 20 ou bien envoyer un mail à secretariat@ec28.fr. Vous pouvez retrouver ces renseignements sur le site de Radio Grand Ciel ou sur le site de la direction diocésaine.
Voilà, un merci d'abord à Simon qui nous a fait la technique et on sera ravis de vous retrouver dans 4 semaines. Bye bye.